Attention, qui que vous soyez, attention, cette fréquence est exclusivement réservée aux urgences.
Pour l'amour du ciel, faites ce qu'il vous dit.
You talking to me? You talking to me?
Ça, c'est l'amour. Ça, c'est la haine. Tout ce qu'il voulait, c'était les réponses que nous cherchons tous.
On sait jamais, sur un malentendu, ça peut marcher.
Bonjour tout le monde, bienvenue dans Focus Store, la 8e édition. Une émission qui a un goût tout particulier pour nous parce que nous sommes filmés, ça s'entend pas. Ça, quand on a des physiques de presse écrite, c'est franchement pas évident. Alors pour vous qui nous écoutez sans l'image, ça ne change rien, le principe reste le même. Quatre objets culturels incontournables du moment et quatre journalistes du magazine Focus Vif pour en dire tout le bien ou tout le mal qu'ils en pensent. Un casting de beaux gosses, hein, forcément, aujourd'hui pour la première télé, avec Laurent Raphaël, le rédac-chef, avec Isaline Parisis, spécialiste des bouquins, Nicolas Clément, plutôt calé en ciné et en BD, et Oliver Stratton,
gogo danseur,
et qui bosse pour les pages télé du magazine. Cette fois-ci, on va vous parler du film Zero Dark Thirty, du nouvel album de Falls de la série Girls et du dernier recueil de nouvelles de Don DeLillo. Et on commence avec le film Zero Dark Thirty de Catherine Bigelow, en lice pour 5 Oscars. Meilleur film, meilleure actrice pour Jessica Chastain, meilleur scénario original, meilleur montage et meilleur montage sonore. On notera que l'incendiaire rouquine, pour le coup ici glacial, a remporté à la mi-janvier le Golden Globe de la meilleure actrice pour son rôle d'agent de la CIA qui défend bec et ongle une piste à laquelle personne ne croit, celle du messager de Ben Laden, dont elle est persuadée qu'elle mènera au leader d'Al-Qaïda. Alors le film s'ouvre sur une brève évocation des attentats du 11 septembre, suivie d'une scène de torture relativement insoutenable, qui fait d'ailleurs scandale aux États-Unis. Certains prétendent qu'à travers elle, le film fait l'apologie de la torture. Alors, à mon avis, on ne doit pas avoir vu vraiment la même chose. Mais enfin, bon, c'est un film dont on sait déjà la fin avant qu'il commence, c'est-à-dire la mise à bord de Ben Laden, d'où le nom Zero Dark Thirty, minute 30 en jargon militaire, qui est l'heure à laquelle a débuté le fameux raid sur sa maison au Pakistan. Et c'est là que réside toute la difficulté pour la réalisatrice, comment rendre passionnant ce dont on sait déjà le dénouement. Ben Affleck y est très très bien arrivé avec Argo. Catherine Bigelow, c'est déjà plus discutable. Personnellement, j'ai trouvé ça très ennuyeux, très austère, très aride. Et je regrette ce parti pris anti-sentimentaliste qui ôte tout ce que l'histoire pourrait avoir de cher. La voix officielle de Focus, c'est-à-dire Louis Danvers, lui a mis 4 étoiles sur 5 et parle de très très bon film. Sick. Nicolas Clément, qu'est-ce que toi t'en as pensé? Est-ce que tu es plutôt Myriam ou plutôt Louis?
Ben, je suis plutôt très très bon film, sick. Ah. Donc je trouve que, en fait, pour toutes les raisons que tu as exposées, donc effectivement, c'est un film qui est très sobre, qui est hyper réaliste, qui est très sec, très tranchant, qui est en fait tout ce que la série Homeland n'est pas. Donc une série qui est quand même basée un peu sur le même canevas. C'est vrai qu'au début, quand on rentre dans le film, on pense pas mal à Homeland. Alors après, bon, c'est personnel, évidemment. Mais moi, c'est ce qui fait que j'ai aimé ce film. Je trouve que justement, sans être assujetti à une logique comme ça de feuilletonnante, on va dire, la série n'est pas obligée de relancer toujours superficiellement l'intrigue. Il n'y a pas de climax, il n'y a pas de choses comme ça. Et je trouve que, justement, ça donne une tension comme ça permanente au film. Et donc je trouve que vraiment au niveau formel, en tout cas, c'est vraiment quasiment parfait, en tout cas sur le sujet. Et plus encore que la mise en scène, moi je trouve que c'est le montage qui est vraiment intéressant ici dans le film. Moi je trouve que c'est un film qu'on devrait monter dans toutes les écoles de cinéma. Il n'y a pas un seul plan, je te sens sceptique.
Ah oui, mais complètement, parce que c'est exactement l'inverse.
Et je trouve qu'il n'y a pas un seul plan qui dure trop longtemps, en fait. Il y a par exemple une scène qui est assez terrible où il y a deux agents de la CIA qui parlent dans une cantine. On comprend que c'est plus ou moins au moment de Noël. Et il y a un sapin de Noël dans le fond de la salle qui est vraiment tout misérable. Et donc cette scène, au-delà de ce que les agents se disent, dit aussi toute la solitude et la difficulté que ces agents ont sans doute à être sur le terrain. Et en même temps, ce sapin, on le voit à peine. J'ai l'impression que les trois quarts des réalisateurs auraient appuyé la scène.
Oui, c'est vrai que ce n'est pas souligné à gros traits.
Et en même temps, l'idée passe, quoi. Et c'est jamais appuyé, en fait. Il n'y a pas d'emphase. Et c'est ça que j'ai aimé dans ce film, c'est ce côté, justement, aride.
Elle suggère les choses, en fait, plus qu'elle n'appuie.
Ouais, en tout cas, il y a beaucoup d'éléments, je trouve, dans toutes les scènes. Il y a beaucoup de choses qui sont dites, mais qui ne sont jamais.
Comme ce fameux fond d'écran dont on apprend via son écran, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, elle a mis une photo de bébé à l'arrière de son ordinateur. Et donc, c'est là qu'on apprend qu'elle a visiblement une famille, des enfants. Et donc,
qu'on peut deviner. Mais ça, c'est une des rares choses qu'elle laisse sur le parcours de cette femme dont on ne sait rien.
C'est pas grand-chose sur l'héroïne.
Si ce n'est qu'elle a l'air très seule dans son boulot et dans sa vie aussi.
Ouais.
Ce qui est le parallèle qu'on peut faire aussi avec Homeland.
Oui, tout à fait.
Le personnage féminin qui lutte un peu seul contre le système.
La solitude des héros, finalement.
Voilà, et qui arrive à ses fins. Mais je trouve que c'était, comme pour rebondir sur ce que disait Nico, je trouve intéressant aussi, c'est le mélange des genres. Elle maîtrise à la fois le film d'espionnage, c'est un thriller, un film à suspense, et c'est un film à thèse aussi.
C'est un drame aussi.
Oui, un drame, et un film sur un portrait féminin, finalement, aussi, quelque part.
Un portrait féminin, tu lui as trouvé de la chair, tu as pu distinguer qui était cette personne, cette Maya.
Avec sa manière à elle d'exprimer les choses, donc je parle de Bigelow ici. Elle a une façon tout à fait décharnée de montrer les choses. Et elle n'a pas besoin de venir souligner, comme disait Nico sur la scène de l'arbre de Noël, du sapin de Noël, mais elle n'a pas besoin de venir souligner le trait. Et donc les choses passent. C'est pour ça que c'est vrai que cette polémique sur la torture, elle est absurde. Dans Midnight Express, il y a déjà de la torture, c'est tout aussi insoutenable. Mais ici, elle vient appuyer la thèse. On lui a reproché de ne pas avoir pris parti clairement. Ce n'est pas nécessaire. On voit bien que c'est... qu'aussi bien ses soldats que la fille, la manière dont elle réagit. Je veux dire, c'est un mal nécessaire, entre guillemets. Merci. Et donc, il y a toute la question de la morale derrière qui est intéressante. C'est que le film pose un peu le principe de cette démocratie qui est sans défense quand elle ne joue pas un peu avec les armes de l'ennemi, quoi.
Et la Jessica Chastain, on en pense quoi? Donc, elle gagne un Golden Globe. Bon, en tout cas, elle va peut-être détrôner Marion Cotillard dans mon panthéon personnel des têtes à claques.
Ah, c'est vrai, mais moi, vraiment, j'ai trouvé qu'elle avait un... je la trouvais absolument magnifique, cette actrice. Elle a un visage comme ça, tellement transparent, sur lequel on peut projeter tellement de choses. Je trouve qu'elle est filmée, elle est absolument de tous les plans, quoi. Sans elle, le film n'existe pas. Moi, elle a personnellement été ma porte d'entrée dans le film. Je crois que sans elle, je ne serais pas rentrée tout simplement dedans. Et dès le premier plan, dès cette scène de torture, c'est une scène qu'on voit à travers ses yeux à elle. Et c'est un personnage tellement radical, quoi, qui incarne tellement cette espèce d'obsession. C'est-à-dire, je trouve que c'est quand même une partie fascinante du film, quoi. À partir de quel moment un ennemi public numéro un devient un ennemi intime, un ennemi sans qu'on comprenne effectivement pourquoi cette femme, on ne sait pas. Où elle dort le soir, on ne sait pas qui elle appelle quand ça ne va pas. Effectivement, il y a ce plan un peu volé comme ça sur le fond d'écran de son ordinateur.
Moi, je ne l'ai pas vu, par exemple.
Ah oui, bah oui, non, c'est très, très rapide. Et puis en même temps, je trouve qu'elle a une présence. Il y a cette scène, par exemple, qui m'a complètement fascinée où l'opération se fait sur base de sa seule certitude, parce qu'elle est la seule à dire « je suis sûre à 100% que Ben Laden est là-bas ».
Ça montre l'échec aussi du système américain. C'est un film, quelque part, très critique sur le modèle américain, qui met des moyens énormes à travers la CIA et tout, mais n'arrive pas à empêcher d'autres attentats terroristes. Et c'est par la persévérance et le hasard, la chance d'une enquêteuse qu'ils vont arriver à progresser, quoi. Je trouve que c'est déjà...
Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'à un moment, il dit on prend plus de risques à ne pas imaginer qu'il est là que de ne pas le faire. Et en fait, il y a cette scène terrible où les hélicoptères s'en vont, elle ne sait pas du tout ce qui va se passer, elle est sur le tarmac et on se dit mais qu'est-ce qu'elle va bien pouvoir faire après ça? Cette femme qui a porté ça pendant 10 ans, et c'est vrai que je trouve que c'est un film qui est constamment sous tension aussi sur cette durée-là, quoi, qui nous fait ressentir les embourbements, les moments où ça dure.
Moi, justement, je trouve qu'on perd cette tension à force d'égrener tous les attentats et toutes les attaques qui ont émaillé l'histoire.
C'est aussi de nous faire sentir cette longueur, quoi, toute cette traque qui a quand même...
Parce que longueur, c'est 2h44,
Oui, mais
je trouve que la longueur participe de cette tension. Moi, personnellement, je trouve que ce n'est pas un film qui se pose à aucun moment. Quoi. Même la longueur fait partie de ça.
C'est très sec, très aride, justement, pour utiliser le mot, pendant tout un temps, où on parle notamment de termes techniques par rapport au type de groupe terroriste islamiste, etc. Il y a vraiment, il faut avoir les clés. Pendant une heure, il faut vraiment avoir les clés pour pouvoir rentrer, je trouve.
Et tu te sentais perdu après, parce que les fils se renouent et à un moment, tu vois quand même clairement.
C'est relativement simple finalement.
Oui.
À partir du moment où on rentre.
Mais on a des groupes différents avec des personnes qui sont forcément, qui sont pas forcément des noms familiers pour nous, etc. Enfin, je veux dire ici, en tout cas, qui m'étaient pas familiers, avec des groupes différents. Et puis moi je dois dire que Catherine Bigelow a quand même un sens de l'action malgré tout, même si c'est très sec, elle a un sens de l'action qui est exceptionnel au niveau par exemple des attentats, qui sont des scènes...
très beaux attentats.
À chaque... Non, mais c'est vrai, c'est des scènes à chaque fois frappantes. Je pense notamment à la scène où il y a Jessica Chastain, justement, et l'autre, sa collègue,
qui sont soufflés dans l'explosion.
Qui sont soufflés dans... Vous déjà un peu sa spécialité dans Des mineurs, où laisser un eau ralenti du sol qui se déforme et tout.
Ça, c'est vraiment...
Juste au moment où elle lui dit, est-ce que tu aurais quand même pas un peu une petite aventure dans ta
vie. Voilà, exactement.
Et justement, moi, elle se fait une copine.
Je trouve qu'il y a un timing là-dedans qui est assez exceptionnel. Et mais au-delà de ça, moi, j'ai vraiment mis du temps à m'y installer parce que c'est vraiment rêche, en fait, à différents points de vue.
Cette scène-là, je trouve qu'elle est super parce qu'on ne s'y attend pas du tout. Exactement. Et ça sent bien. Et ça, à fond dans le parti pris hyper réaliste du film.
Tout à fait.
Moi, je trouve qu'il y a une seule scène qui est ratée, donc sur 2h35, je trouve que c'est pas la mort, quoi. C'est la scène justement où la même nana fait venir le médecin.
Parce que c'est flagrant.
Ouais, on sent venir le truc de très loin. Donc en fait, je resitue. Absolument. Donc c'est la nana qui fait venir le médecin qui pourrait lui balancer un peu Ben Laden ou en tout cas son réseau. Et elle est hyper excitée, voilà, comme une gamine de 12 ans. Elle fait les choses en dépit complètement des règles de sécurité de base. Et on sent venir le truc arriver. Et je trouve qu'on est un peu même mal à l'aise quand ça arrive. Ou là, moi, j'y crois pas, cette scène-là. Quoi. Non, et les autres scènes, j'y crois. Et donc, même si je comprends pas tout le sabir...
Ça peut faire rentrer dans l'aveuglement qu'on peut avoir à poursuivre une quête pendant 5 ans et qu'à un moment donné, les résistances sortent.
C'est ce qui m'a permis d'y croire un petit peu, quand même. Mais pour revenir sur des scènes marquantes, je trouve que ce qui reflète aussi assez bien l'évolution un peu du cinéma américain et du malaise américain, c'est la scène de l'attaque de la ferme blindée d'Oussama Ben Laden. C'est toute cette scène-là fait un peu l'antithèse de l'épopée wagnerienne d'Apocalypse Now. Mm-hmm. Je trouve que j'avais lu ça, je n'ai rien inventé. Je trouve que c'est bien vu parce que d'un côté, c'est la clarté, c'est la musique à plein tube et on débarque comme des cow-boys. Et ici, c'est dans la pénombre. La photo est magnifique et on agit, mais on ne sait pas très bien.
Entre... Quand même, un moment mémorable pendant cette scène où un soldat derrière la porte est fait Oussama.
Oui. Oui, c'est juste terrifiant.
C'est très réaliste.
Exceptionnel. Moi, je suis resté. La scène de l'attaque par les hélicoptères, c'est une scène exceptionnelle. Je suis resté bouche bée vraiment. Quel truc de dingue qui est en train de se passer. Cette espèce d'hélicoptère qui fait pas vraiment de bruit, où on sent il y a une tension incroyable.
Ouais, qui se crache. Hein,
il se crache. On se demande comment est-ce que les gens se réveillent pas dans la maison qui est à 12 mètres. Un hélicoptère qui se crache a priori.
Réveillés, ils peuvent très bien l'être. On ne sait pas.
Globalement, c'était une scène. Vraiment.
Mais il y a un travail du son, je trouve, un travail des matières.
Incroyable.
On est vraiment dans le béton, on s'attache au tapis qui pendent sur les murs. Enfin, il y a un truc un peu, on est dans cette maison, quoi.
C'est vrai que
le Oussama, ça fait rire. Et c'est la seule scène Oussama. Où il y a pas mal d'humour, même quand les soldats discutent entre eux, avec un côté un peu beauf qu'ils peuvent avoir. Et quelque part, on en a peut-être besoin.
Mais
aussi,
ça reste dark. Quand on rigole, on sent qu'il y a une espèce d'amertume au fond d'eux et que c'est pas avec cette fierté, cette assurance qu'on peut retrouver dans le cinéma américain. Je trouve qu'il y a des failles et qu'on la sent dans les personnages, on la sent tout au long de la tension
du
film.
Avec ce plan, à un moment, sur le gars qui a effectivement tiré sur Oussama Ben Laden, qui perd complètement pied à un moment de se dire, de prendre conscience de ce qu'il vient de faire. Et
ça fait un ricochet avec l'actualité, puisque ce soldat-là dit qu'il ne tiendrait plus jamais une arme. Enfin, il a été apparemment traumatisé.
Il vit d'une petite pension, apparemment. C'est chichement. Enfin, voilà. On prend des nouvelles de lui.
Mais par contre, pour revenir sur Coppola, il y a cette dimension wagnérienne là qui est dans Apocalypse Now. Mm-hmm. Il y a quand même un côté un peu second degré chez Coppola. Enfin, on peut pas dire vraiment qu'on a d'un côté.
Non. Mais ici, c'est tellement pesant que d'ailleurs toute la photo de cette partie-là. Si on ne le regarde pas sur grand écran, à mon avis, on voit juste des nappes noires. C'est tellement sombre, c'est un parti pris, je trouve, qui est assez audacieux parce qu'elle ose jouer cette carte et qui renvoie aussi un petit peu aux jeux vidéo. La manière de filmer en caméra subjective.
On a vraiment l'impression
derrière les jumelles, quoi, un peu avec la lumière jaune.
En plus, on passe au niveau 1, niveau 2. Enfin, il y a vraiment quelque chose de jeu vidéo là-dedans, dans cette scène qui est soufflante. Quoi.
Bon, on va mettre une petite cotation.
Je voudrais juste d'abord dire quelque chose. Autant le film est sec et rêche, etc., et tout ce qu'on a dit, mais autant quand on voit arriver à un moment Tony Soprano dans le film. J'ai eu un grand moment de...
Qui a pris encore du poids.
J'ai dit, mais c'est Tony Soprano. Donc j'ai mis à peu près 12 à 15 minutes avant d'arrêter de rire. en fait, en me disant, putain, c'est Tony Soprano, il joue dans le film, c'est formidable. Et ensuite,
Andy... Il a picoté Kevin Spacey, non ?
En plus...
Ah oui, en catcheur, quoi.
Ouais, en sumo. En plus catcheur, en fait. Et puis, il y a Andy de Parks and Recreation, qui joue le rôle d'un soldat.
Ouais, dans des soldats de la fin. Là, ouais.
Absolument, qui est, par ailleurs, je ne sais pas si tu connais Parks and Recreation, qui est une série complètement drôle, en fait. Et le voir là-dedans, alors qu'il joue le plus grand imbécile de l'histoire de la série américaine depuis 5 ans maintenant dans Parks and Recreation, le voir jouer un soldat complètement sérieux, complètement affairé à sa tâche, ça m'a fait un choc.
Il était déjà dans Moneyball comme ça, donc il y avait déjà ce côté... C'est vrai que c'est étonnant de voir un gars qui fait le singe dans des séries et qui tout d'un coup fait un dégât qui va aller tuer Oussama Ben Laden.
On s'en va parler.
Voilà. Bon, sur 10
Sur 10, 7,5.
Il n'y a pas de demi-point.
D'accord.
Ouais.
Bon. 8.
7.
Je vais mettre 8 aussi.
Ouais, pareil, 8.
J'ose pas donner ma cote. Bon, 5. Voilà. On parlait de Zero Dark Thirty, le dernier film de Catherine Bigelow. On liste donc pour 5 Oscars. La série de la semaine, c'est Girls. Girls dont la première saison vient de sortir chez nous en DVD et dont la seconde est en cours de diffusion aux États-Unis sur HBO. C'est un phénomène là-bas. Tout comme sa créatrice, productrice, scénariste et actrice principale, et j'en oublie sans doute, Lena Dunham, 26 ans, qu'on compare déjà à Woody Allen, tant elle apparaît surdouée. Girls est coproduite par Judd Apatow et a remporté 2 Golden Globes, celui de la meilleure série comique et celui de la meilleure actrice dans une série comique pour Lena Dunham. La série ne raconte rien vraiment très concret, elle n'a pas vraiment de fil rouge, elle n'établit pas clairement où elle va. Elle montre juste comment vivent 4 copines dans la vingtaine à New York. C'est souvent présenté comme le Sex and the City nouvelle génération, mais alors sans maquillage, sans escarpins, le boutin, sans boîte à la mode, mais avec beaucoup de cellulite, de cheveux gras et d'histoires d'amour foireuses. C'est une série un peu bordélique, un peu borderline, pas nécessairement toujours drôle ni toujours intéressante d'ailleurs, mais terriblement attachante, très générationnelle, très connectée sur son époque. Moi, je crois que quand les Martiens auront envahi la Terre après l'apocalypse et qu'ils se demanderont à quoi ressemblait la vie des jeunes dans les années 2010, ils regarderont quelques épisodes de Girls et ils seront fixés. C'est un de mes tout gros coups de cœur de l'année dernière. Guy, oui. Est-ce que tu as été séduit par les filles de Girls?
Oui.
Oui,
complètement. Absolument, complètement, magistralement séduit par les filles de Girls et par la série en général, qui est d'une finesse, je trouve... assez épatante.
Tu l'as regardée avant que je t'oblige à la voir pour cette émission ?
Non,
je l'ai pas vue. Non, mais j'ai dû t'obliger à y mettre.
J'en parlais à ce très cher et néanmoins très bon Nicolas un peu avant. Je disais que justement, j'avais vu 2 épisodes il y a un petit temps, il y a un an, je pense, ou enfin il y a 6-7 mois quand c'était sorti. Et puis j'avais zappé pour des raisons X et Y et je l'ai reprise donc pour cette occasion-ci. Et j'ai été complètement... voilà, scotché. Je passe pour le moment mes soirées, mes nuits à regarder Girls et je suis très 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 triste et c'est très douloureux de savoir que ça va s'arrêter. Enfin, en tout cas, que ça va s'arrêter. Qu'il y aura un cinquième. Je pense qu'on est au cinquième épisode.
Surtout que les saisons sont très courtes. Hein.
Voilà,
il y en a 8.
C'est une demi-heure. C'est une demi-heure par épisode, donc c'est pas fondamentalement long. Mais par contre, qu'est-ce que c'est fin, qu'est-ce que c'est drôle, qu'est-ce que c'est inattendu, qu'est-ce que c'est frais. Je sais pas. Il y a plein de choses là-dedans. Donc à la base, on m'avait dit donc c'était la série produite par Judd Apatow qui est à peu près mon idole, qui est un peu à la comédie américaine, ce que le grand Jojo est à
la chanson à bras.
Est à la chanson à texte des Marolles. Donc Judd Apatow qui est vraiment une de mes idoles absolues.
Et de Nico aussi.
Et de Nico. Judd Apatow qui est vraiment un réalisateur, un producteur, qui a remodelé complètement la comédie américaine des années 2000 et qui est vraiment une de mes idoles et donc qui est un peu à la baguette au niveau de la production de cette... producteur exécutif avec Lena Dunham qui justement a à peu près toutes les casquettes, je pense qu'elle fait, à mon avis, le catering aussi, elle écrit, elle produit, j'imagine, elle fait la musique, j'ose même pas imaginer toutes les casquettes qu'elle a dans ce truc, donc c'est effectivement épatant. Et à 26 ans, je pense qu'elle a quoi, 26 ans. C'est très complexant.
Ah, oui.
on se dit vite qu'on a raté.
Oui. Ah non, parce qu'on la voit nue sur pratiquement tous les plans, même quand ça ne nécessite pas de nudité. Hein. Mais je crois qu'elle aime beaucoup. Enfin, elle a une sorte de problème d'exhibition avec son corps.
C'est une thérapie, en fait.
Mais oui, oui.
En tout cas, elle est complexante parce que c'est brillant ce qu'elle écrit. Enfin, je trouve les situations décalées, mais sans être exagérées. C'est pas du Judd Apatow parce que c'est pas aussi drôle que dans du...
Il y a pas de gag.
Voilà, c'est pas... Il y a pas vraiment de... C'est pas du Judd Apatow, c'est pas aussi drôle que dans du Judd Apatow, mais c'est pas du Woody Allen parce qu'il n'y a pas le côté. Enfin, mais voilà, il y a quelque chose.
Et ça a beau être une série avec des filles, pour les filles, par des filles. Toi, ça te parle en tant que garçon, là.
Je trouve aussi que les rôles masculins sont particulièrement bons. Je veux dire, il y a le rôle d'Adam qui est justement son espèce de sex friend qui devient un petit copain, qui est un personnage complètement à la marge, mais en même temps super attachant.
C'est le plus fric que j'ai vu à la télé.
C'est super fric.
Entre la petite ronde et lui, une espèce de bonhomme en caoutchouc aux membres super long, XXL, comme ça, et un peu psychopathe sur les bords. Torse nu et la main dans le caleçon. C'est un personnage un peu étrange. Quand il met ses lunettes de soudeur, on se demande qui va découper en morceaux. Quoi.
Et ce garçon, le copain de Marnie, dont j'ai oublié le nom, mais qui est un personnage masculin un peu éteint, un peu mou, un peu castré, je le trouve super réaliste. Oui, et un peu poseur. Je trouve qu'il y a tellement de garçons comme ça dans la vraie vie. On en rencontre plein.
Ouais, par exemple, quand il retrouve une nouvelle nana, par exemple, on voit qu'il rentre dans le même schéma, qu'il redevient à nouveau un petit peu soumis et un petit peu. Il y a plein de choses qui sont vraies.
C'est un peu
juste.
Trop calculé pour être la série cool du moment, je trouve. Oh, là, c'est New York, à la fois. Voilà, on expose un peu ses problèmes.
Rien n'est cool là-dedans.
Moi, je trouve que ça tourne
un cool
peu
is the new cool.
Oui, mais exactement. Mais voilà, mais c'est ça. Et je trouve que ça se sent un peu trop. Quoi. Donc après, je me suis arrêté à la première saison, donc la deuxième, je ne peux pas juger. Mais je trouve que la mécanique est quand même toujours un peu la même et finalement un peu du déjà-vu, sauf que c'est mis dans un contexte avec des nanas qui assument un peu leurs soucis, qui ont plus d'humour que ce qu'on avait l'habitude de voir. Le glamour, c'est un peu déplacé, quoi. Là où il fallait en effet être en talons aiguilles et manucurés, ici elles se lâchent un peu, elles balancent des vannes et elles parlent cul. Mais finalement, c'est un peu vite. Quoi. Alors, c'est peut-être à l'image de cette génération, mais moi, je trouve que ça manque un peu de substance.
Je pense vraiment que c'est Judd Apatow qui a fait un retournement complet dans les Freaks et les Geeks, justement, qui était une série d'il y a 10 ans, à la suite de Freaks and Geeks et de toutes les séries et de tout 40 ans toujours puceau et de tous les trucs avec cette rogène et tout, cette espèce de troupe d'acteurs où les losers finalement sont devenus les winners quelque part. On a une transformation complète à ce niveau-là et qui se matérialise complètement dans Girls, justement. Limite la copine de Anna qui est un petit peu plus jolie que les autres et qui est un petit peu plus Marnie, qui est plus apprêtée que les autres, etc. C'est elle qui s'en sort le moins bien, finalement. C'est elle qui a le plus de difficultés. Parce que les autres assument complètement qui elles sont, même si elles sont moins jolies, même si elles sont moins drôles, si elles sont plus libérées, si elles sont etc. etc. Donc il y a quelque chose aussi de symptomatique là-dedans. Et moi j'ai trouvé que justement il y a des défauts, parce que tous les personnages ne sont pas aussi réussis les uns que les autres. Mais par contre, c'est compensé, je trouve, par une pertinence de ton et par une fraîcheur dans le ton qui est
absolue. Il y a des dialogues assez succulents. Quoi. C'est vrai que c'est bien tapé.
Et des situations, surtout des situations qui sont... Il y a des choses pour lesquelles on est vraiment surpris. On ne s'attendait pas vraiment. Moi, je trouve qu'on ne s'attend pas vraiment à ce qui se passe dans la scène d'après. Et ça, c'est une qualité assez fondamentale, je pense, dans une fiction.
Ouais, je pense qu'elle ne s'attend elle non plus pas vraiment à ce qu'il va y avoir dans la scène d'après.
Ouais. C'est bien possible qu'elle...
Elle écrit en cours de route.
Oui, à mon avis, c'est d'écriture automatique.
C'est bien possible, mais bon, c'est dire qu'à cet âge-là, on peut...
Oui, elle est douée,
c'est assez ahurissant.
Mais je reste un peu sur ma faim par rapport à l'ennui que ça peut générer, je trouve, sur la longueur.
Oui.
J'ai pas appris grand-chose, quoi. Je veux dire, que ce soit sur les filles, que ce soit sur cette génération... À ce niveau-là, oui, il y a quelques
saillies. Je pense que ça n'en a pas la prétention ni l'ambition.
Non, je pense que ça part toujours un peu du malentendu. C'est vrai que c'est pas... on plonge dans la vie de quatre adolescentes new-yorkaises. C'est sans doute pas le microcosme qui a le plus de choses à nous dire sur le monde aujourd'hui. C'est sans doute quand même une série assez insignifiante.
Par contre, sur le cul, elles ont beaucoup de choses à dire.
Elles ont beaucoup de choses à dire.
Mais c'est sur le monde du travail aussi. Il y a une scène que j'ai trouvée super dans la première saison, quand elle passe un entretien d'embauche qui se passe relativement bien et qu'elle fait la blague de trop parce qu'elle sait pas, avec quelqu'un d'un peu plus âgé, qu'elle va trop loin. Et que cet entretien qui s'était plus ou moins bien déroulé s'écroule complètement, ce genre de choses.
On voit qu'elle n'a pas les codes, quoi.
Mais je trouve que ça montre que la jeunesse, la génération Y, n'est pas adaptée dans le monde dans lequel elle va devoir s'insérer.
Et ça, c'est vrai que je trouve que c'est une série qui est quand même assez juste, quoi. C'est sans doute assez insignifiant, mais c'est juste et c'est bizarre, quoi. C'est vrai. Il y a plein de choses super bizarres à chaque épisode. Je sais pas, elle part chez ses parents au week-end, elle part avec un sac poubelle, elle met toutes ses affaires dans un sac poubelle, elle prend l'avion comme ça, elle mange des cupcakes dans sa baignoire, elle reçoit des textos porno taxidermiste de son mec. Enfin, il y a des trucs, des idées comme ça. On se dit, mais d'où ça vient, quoi? Et ça, je trouve, c'est quand même... Moi, c'est un truc qui m'a quand même un peu scotché dans cette série-là. Après, je trouve qu'il y a aussi un peu ce malentendu, puisque Anna veut devenir écrivain, la voix de sa génération. Du coup, elle a l'impression un peu qu'elle doit expérimenter, quoi. Et donc, sous ce prétexte-là, je trouve qu'elle fait des choses de plus en plus avilissantes avec un peu cette fausse idée. Enfin, je pense que voilà, expérimenter ça, ça n'a jamais fait les grands écrivains. Mmh. Et je pense qu'à un moment donné, moi, ça m'a un peu déprimée parfois, ce côté justement anti-glam que j'ai bien aimé, parce que c'est vrai que ça fait le contre-pied à Sex and the City, mais à un moment donné, on tombe quand même dans quelque chose d'un peu poisseux, d'un peu glauque.
Un peu sale. Hein,
ouais. Un peu sale, et voilà, je pense que, oui, avec, voilà, comme tu disais, l'exhibitionnisme, quoi, les corps un peu graisseux, blancs.
C'est ça, enfin, moi, qui parfois m'a gêné, c'est ce contraste entre d'un côté, on assume ce qu'on est physiquement et nos crasses et autres, et de l'autre côté, de s'offusquer parfois de choses qui sont finalement pas si dramatique.
Mais c'est très américain, quoi.
Ouais, c'est très américain, c'est très ado sans doute, enfin post-adolescent aussi, c'est comme attitude. Mais du coup, j'ai envie de les claquer, de leur donner des claques parfois.
Mais c'est vrai, en fait, elles sont sales sans être sales. Enfin, il y a un côté gâté, qui est un peu énervant. Moi, dans la première saison, ce qui sauvait vraiment la série, je trouve, c'est ce côté, effectivement, complètement inattendu. Ça partait un peu dans tous les sens. Il y a un franc-parler, il y a une liberté de ton, comme ça, une originalité qui sont là. Et dans la saison 2, c'est vrai que j'ai un peu juste l'impression de voir un Sex and the City indé. Ouais. Alors, c'est vrai que, en fait, la série n'a clairement pas grand-chose à dire, mais en général, elle le dit bien. Mais je trouve que dans la saison 2, ça commence déjà... Enfin, je ne sais pas si tu as eu ce sentiment-là en regardant la saison 2, mais le fait que ça tournait déjà un peu en rond, et je me dis, mais qu'est-ce qu'elles vont encore raconter, quoi, finalement.
Oui, mais je trouve que tu as raison, mais pour moi, c'est une série d'accompagnement, quoi. On est heureux de les retrouver, on n'a pas envie que ça aille d'un point à l'autre.
Il n'y a pas de but, y a pas de, ça pourrait durer, théoriquement, ça pourrait durer 23 saisons.
Un peu à la Friends, quoi. Mais est-ce que tu les regarderais, quoi, je veux dire.
Mais ça dépend.
Moi, je vais encore regarder
celle-ci. Si ça reste drôle et que ça reste bien foutu, avec les situations sont sympas, il n'y a aucune raison.
Après,
ça,
mais à poil à chaque épisode.
Après, on rajoutera les applaudissements. Mais non, mais c'est vrai. Je veux dire, il y a pas comme dans Breaking Bad ou d'autres séries une espèce de. Il y a pas un enjeu de base ou une espèce de fin programmée. Ouais. Voilà. Ici, c'est vraiment ouvert et je pense que.
Après, ça peut devenir des chouettes copines, effectivement, qu'on a envie de retrouver. Après, je sais pas, on a toujours envie de plonger dans la misère sexuelle et affective de ses amis à ce point-là. Quoi. Il y a un côté un peu...
Mais ça va du bien aussi.
La misère,
on se sent un petit peu...
Je trouve pas, franchement, je ne trouve pas en misère sexuelle, quoi. Sincèrement.
C'est vrai.
Il y en a une qui est
Anna couche beaucoup, malgré son physique difficile.
Bah, Marnie est quand même un peu en misère sexuelle. Bah,
Marnie est là, parce que...
Shoshana,
oui, mais Shoshana, elle finit justement par trouver le bonheur, entre guillemets, sexuel. L'autre, elle est justement super libérée au niveau sexuel
ou en tout cas elle retrouve Jessa. Quel drôle de personnage,
oui, quel drôle de personnage.
Cette espèce de bohémienne anglaise
qui jouait apparemment dans le premier film film et l'unique film de Lena Dunham,
qui n'est pas, je pense, actrice à la base, qui est juste une copine de Lena Dunham.
A priori, oui, voilà. Bon, en tout cas, moi, j'ai trouvé ça vraiment très très bien et je continuerai à le regarder.
Bon, sur 10, moi je lui mettrais un bon 8. Quasi un 9, un 8 qui tend vers le 9.
Moi, je mets 8 aussi.
6.
Moi, j'ai remis 7 à la saison 1 et 6 à la saison 2.
Au moins 5 pour les quelques dialogues.
Toujours faire ton intérêt. Ouais. C'était donc Girls, la série de Lena Dunham qui est sortie, la première saison est sortie chez nous en DVD. Dans le rayon musique, on a sorti le troisième album des Oxfordiens, The Falls, Holy Fire, qui est sorti chez nous le 11 février dernier. Les Inrock disent d'eux qu'ils sont les détenteurs les plus passionnants et influents du nouveau rock. La Libre parle d'orfèvrerie pop. Notre cousin français de l'Express évoque à propos de ce disque ses guitares méticuleuses, ses mélodies anguleuses et ses refrains ravageurs, un brasier intense allumé à coups de riffs de heavy metal. Seule note dissonante dans ce concert de louanges, celle de Laurent Aubrex, notre copain, le chef de nos pages musique, qui lui a mis seulement 2 étoiles sur 5 à ce disque et qui trouve ça efficace, mais pas passionnant. C'est ce qu'il m'a dit au téléphone. En tout cas, moi, ça ne m'a pas parlé du tout. Ça représente tout ce que je déteste dans le rock contemporain. Totale absence de talent vocal et même d'empreinte vocale, tout simplement. Une rythmique hasardeuse. Et au final, j'ai trouvé ça paradoxalement assez fade. Il ne suffit pas de jouer avec des allumettes pour être un bon pyromane. Et j'ai comme l'impression que je serais quand même bien seule à défendre ces positions. Je ne sais pas à qui donner la parole. Laurent, Mais toi, évidemment, tu as aimé. Chaque fois, je n'aime pas.
Non, justement, j'abonde dans ton sens, Myriam. Je suis pas client. Je suis pas fan de Falls dans l'absolu. Je trouvais que les deux albums précédents avaient quelque chose quand même de plus consistant, une pop un peu névrotique. Enfin, je trouve qu'il y avait des choses intéressantes. Ici, dans la volonté de se renouveler, ils ont complètement changé leur fusil d'épaule et ils ont gonflé à l'hélium les guitares et toute la
mélodie.
Voilà, complètement. Donc c'est un peu formaté pour les stades, en tout cas toute la première partie de l'album. Et du coup, bah, c'est tous les défauts, enfin tout ce qui est parfois insupportable dans des albums qui sont formatés pour ça. C'est riff sur riff, c'est la grosse armada électrique. Et avec sa voix qui, je trouve, ici n'apporte pas grand-chose et qui est même parfois en décalage par rapport à cet univers musical. Et donc voilà, à part les deux, trois derniers morceaux que je trouve où là, il retombe un petit peu dans quelque chose un peu plus, plus feutré, plus mélodique, ça redevient un petit peu intéressant. Mais sinon, le reste, voilà, pour moi, assez, je passe mon tour, quoi. C'est
intéressant. Plaisir. Nico, toi, c'est plutôt ta cam,
mais
a priori.
C'était ma cam, en fait. Mais c'est un peu le syndrome de tous ces groupes. On pourrait en citer, je ne sais pas, des dizaines. Moi, je trouve que c'est le syndrome, je vais appeler ça le syndrome Block Party. En fait, c'est un groupe qui, avant même le premier album, en fait, sortait des singles super intéressants. Donc, il y a ce single qui s'appelait Hummer chez Falls, qui est un single qui est sur aucun disque, qui était vraiment génial, et c'est ce qu'ils ont fait de mieux. Et Block Party, c'était pareil, en fait, à l'époque, avant de sortir le premier album. Et d'album en album, en fait, le groupe mute comme ça et devient quelque chose de... Je ne sais pas, abandonne en tout cas en chemin l'exigence qu'ils avaient au début. On peut parler d'autres groupes, hein, des groupes comme Editors, des groupes comme Kings of Leon. Et c'est des groupes qui changent non seulement, pas de style musical, mais en tout cas de la façon de délivrer la musique, mais aussi qui changent de look, qui changent de discours.
C'est vrai que la référence à Kings of Leon est assez pertinente.
Mais oui, c'est ça, le premier album est super exigeant. Je ne dis pas que c'était super pointu, c'est super exigeant, j'arrive pas à le dire, mais j'exagère un tout petit peu. Mais en tout cas, ils perdent quelque chose au fil du truc. En tout cas, la singularité qu'ils pouvaient avoir au début, qui était bien réelle, ils l'ont perdue en chemin.
C'est un peu, j'ai l'impression qu'il y a une espèce de dictature à devoir se renouveler à chaque album, parce que se répéter, ça, c'est l'étiquette à fuir absolument. Et du coup, sous prétexte de liberté, de ne pas s'enfermer dans un genre, on essaye tout, y compris des choses qui ne correspondent pas du tout au format initial.
Mais est-ce qu'ils se renouvellent vraiment musicalement? Moi, j'ai l'impression qu'en fait, il n'y a que la production qui change. C'est un album de producteur, en fait.
Le truc, comme tu disais... La plupart des albums sont quand même forts des albums de producteurs, donc on sent très fort cette présence.
Mais c'est gonflé aux hormones, donc c'est Flood, c'est Alan Moulder et Flood qui sont derrière la production, donc des mecs qui ont produit des groupes comme les Killers, comme U2 surtout pour Flood, et j'ai l'impression que tout ce qu'il produit, il le produit comme du U2. Et s'agissant de Fall, je trouve que ça ne va pas, en fait. Alors, dans les interviews promo sur le disque, le groupe parle d'un disque outrageusement funk. Donc, ils ont voulu faire un disque funk. Bon, moi, je sens bien, par moments, un truc un peu funk, qui était déjà là, d'ailleurs, dans les autres disques. Ouais. Mais c'est quand même, moi, je trouve, super plombé. Les morceaux n'en finissent pas de finir. Je m'ennuie vraiment en écoutant ce disque. Et j'ai l'impression d'entendre une production et pas des morceaux de musique, en fait.
Isaline a l'air d'accord.
Mais oui, complètement. Moi, je suis restée un peu froide devant cette espèce d'accumulation de décibels, de grosses guitares et d'énergie brute. C'est vraiment de la musique pour moi efficace. Quoi. Je ne sais pas vous, mais moi, la musique efficace, ça me passe un peu au-dessus.
Efficace, c'est vraiment efficace.
Bah, je trouve, oui.
Pas sur moi.
Voilà, sur des rails un peu. Alors, c'est une musique qui enfonce le clou. Quoi. Je veux dire, après 30 secondes, on a compris là où ils voulaient en venir. Et puis, en fait, non, c'est des musiques qui durent. Enfin, c'est des chansons qui durent. Je trouve que c'est pas un disque très généreux, c'est pas un disque qui a beaucoup d'âme. Alors c'est marrant parce que dans les In Rock, ils disaient justement qu'ils étaient passés un peu outre un perfectionnisme qui emprisonnait leur musique et qu'ils avaient l'impression que c'était pas une musique qui avait un cœur qui bat et tout ça. Alors c'est marrant parce que moi c'est justement ce que je leur reprocherais encore aujourd'hui sur celui-là. Voilà, j'ai écouté cet album dans mon iPod et je me disais, mais pourquoi je m'inflige ça? En fait, j'aime pas cette musique.
Oui, moi j'ai écouté une fois, je ne le réécouterai pas.
Voilà, il y a quand même deux choses qui pour moi sauvent un peu le disque. Effectivement, c'est les deux derniers morceaux, je trouve, Stetson et Moon, là, qui sont quand même assez beaux, très dépouillés, presque bouleversants en fait. Un peu Sigur Rós, un peu The National, qui m'ont vraiment réconcilié avec le disque. Puis la deuxième chose, c'est que j'ai lu que Philippe Akis, donc le chanteur de Fall, c'était un grand lecteur de Hemingway, David Foster Wallace et Raymond Carver. Donc je pense que ça ne peut pas être fondamentalement quelqu'un de mauvais.
Ça ne s'entend pas vraiment.
Par contre, le carnet de commandes pour les festivals, il va se remplir assez vite. Parce
oui, d'ailleurs, concert, les plaines, hein. 15 mars, Ancienne Belgique, complet depuis l'ouverture de la vente des places.
Oui, c'est scandaleux.
Avant qu'aucun nouveau morceau soit disponible, en fait, ce qui est quand même assez étonnant. Quoi.
La hype.
Oui. Guy, qu'est-ce que tu as à dire à ce sujet? Pas grand-chose, j'ai l'impression.
Moi, j'ai écrit Falls. C'est un bel pop rock, même si sur la longueur, la voix de Yanis Philippakis est un peu pompante.
Ah oui. Moi, tout est dit, je pense.
Globalement, bon. J'ai pas trouvé que c'était aussi horrible que ça. Enfin, je vous trouve un peu trash sur la question. Mais moi, je l'ai écouté plus 4, 5, 6 fois, je pense, pour essayer de. Parce que, bon, écouter un album une fois, tu passes dans 99,84% des cas à côté de ce qu'il y a moyen d'avoir. En l'occurrence, ici, je trouvais que. Il y a une absence de grandes chansons. Il y a pas, je pense qu'il n'y a pas une grande chanson. Je pense que je l'ai retournée un peu dans tous les sens. Il n'y a pas vraiment une chanson où tu as envie que, de la réécouter, de mettre replay, je pense. Mais globalement, ce n'est pas, c'est pas dénué de qualité. Et effectivement, c'est un peu pompant parce que je trouve que sa voix, à la fin, ça devient un peu énervant. Mais ça c'est pas aussi affreux que
je sais non,
pas
c'est, bien
c'est,
pas sûr.
C'est si patibulaire que ça.
Pas
c'est
affreux, patibulaire.
C'est pas tal ou Mbokra, mais... Non, enfin, c'est pas intéressant non plus, je trouve.
Non, je trouve c'est pas plus intéressant. C'est dans la veine indie rock, je sais pas comment on en
fait. Comment on en fait des tonnes.
Il y a un milliard de groupes comme ça pour le moment qui font tous quelque part la même chose en est tellement différent qu'enfin tout le monde fait la même chose finalement.
C'est un peu grand chose d'indie justement. Enfin, c'est pas grave, hein, je veux dire.
Par contre, là où je suis pas d'accord avec vous, c'est que je vois pas vraiment dans les stades. Il y a pas des. Tu parlais des Killers, des Block Party, des choses comme ça.
Il y a quand même des montées un peu orgasmiques comme ça au départ.
Dans l'album précédent, il y avait
c'est un peu triomphal.
Dans l'album précédent, tu avais l'un ou l'autre morceau comme ça qui était interminable justement, qui faisait 6 ou 5, 6, 7 minutes et où tu avais des longues envolées qui n'en arrêtaient pas. Je trouve qu'ici, c'est pas aussi... Moi, je le remarque pas de manière aussi flagrante et au-delà de ça, je vois pas vraiment en quoi ça va. Il y a pas un hymne, j'ai pas senti un hymne là-dedans. On n'est pas dans Coldplay, il faut rester raisonnable. Quoi.
C'est quand même fort gonflé aux hormones, quoi, je trouve.
Ouais, parce que c'est un peu de pêche, mais, mais c'est, il faut... Je sais pas. Voilà, j'ai trouvé que c'est pas... comment s'appelle tous ces groupes un peu folk, un peu folkeux, etc. On n'est pas dans ce trip-là. Mm-hmm. Maintenant, je trouve qu'il ne faut pas exagérer dans l'autre sens non plus. Quoi. Voilà,
c'est vrai, restons mesurés.
Restons mesurés, en mesure, voilà.
Mais par rapport à eux-mêmes, je veux dire, eux-mêmes au début avaient un truc, donc c'était du mad rock, comme on dit, donc du rock mathématique, comme ça, un peu épileptique, enfin, des trucs super secs, tranchés, comme ça. Et c'est vrai que là, enfin, on a l'impression qu'ils mettent des couches sur des morceaux où en fait il n'y a rien en dessous. Quoi. Ouais, enfin, moi, c'est ce sentiment-là.
C'est juste pas super passionnant. Quoi. Mmh. C'est vraiment pas super passionnant.
On s'en fout encore.
Avec tout ce qu'il y a, je veux dire, tu te demandes un peu à quoi,
oui, à quoi ça sert.
Et maintenant, sincèrement, dans le paysage actuel de la musique, avec les centaines de milliers de trucs qui sortent en même temps, je veux dire, c'est très difficile, je trouve, d'avoir maintenant, parce que tu as justement les Inrocks qui mettent ça en avant et qui crient au génie. On a tendance à.
On est là pour un peu rétablir.
Non mais voilà, globalement, je crois qu'il ne faut pas non plus s'exciter contre ces gens qui ont l'air très sympathiques.
Non, mais une telle hype qui est un peu agaçante et donc qui paye peut-être aussi un peu pour les autres.
Absolument.
Sur 10 ?
6.
4 ?
Ouais, 4.
3.
Ah ouais, bah moi je mettais 5.
Tu pensais être la seule.
Mais oui, parce que je me disais, j'ai peut-être pas tout compris. Parce que comme c'est pas ma cam, je mets 5, parce que comme ça, c'est un peu de... Bref,
non,
c'était 3. Holy Fire, le nouvel album de Falls. L'Ange Esmeralda, c'est le nom du recueil de nouvelles de Don DeLillo. C'est le titre d'une de ses nouvelles, d'ailleurs. Don DeLillo, pour vous situer, c'est le type qui a notamment écrit Cosmopolis, mis en scène au cinéma par David Cronenberg l'an dernier. C'est l'un des plus grands écrivains américains contemporains, paraît-il. Et ceci, c'est une compilation par ordre chronologique d'une série de textes qu'il a écrit ces 35 dernières années. Il y a de tout, des cosmonautes qui jouent à la guerre, des hommes qui trompent leur femme à la faveur d'un retard d'avion, un jogger qu'un incident fait dévier de sa trajectoire, et bien d'autres choses encore, à boire et à manger. Mais une constante, sans doute, la solitude des protagonistes. La quatrième de couverture dit que DeLillo, de dialogues elliptiques, écryptés, en rencontres décalées, met en scène des individus victimes de silencieuses catastrophes où s'abîme l'inquiète charade de leur existence. Charade et cryptique, effectivement, c'est bien vu, c'est extrêmement nébuleux tout ça. On dirait de l'art brut, ou de la littérature brute, je ne sais pas si ça existe, ou en tout cas l'œuvre d'un mec sous influence qui écrit ce qui lui passe par l'esprit, et tant mieux si ça fait sens, et tant pis si ça ne fait pas sens. Il y a effectivement de très belles choses dedans, notamment la fameuse nouvelle L'Ange Esmeralda sur la mort d'une jeune fille qui apparaît tous les soirs, telle une vierge miraculeuse sur un panneau publicitaire. Il y a aussi et surtout beaucoup de détails non signifiants et un gros problème à mes yeux, une absence quasi systématique de récit. Don DeLillo ne raconte rien, il plante des décors et puis il passe à autre chose. La lecture de cet Ange Esmeralda m'a donc semblé particulièrement pénible. Isaline, en tant que responsable des pages bouquins, je pense que tu n'as pas la même opinion que moi à ce sujet.
Et heureusement, sinon, il n'y aurait pas de discussion.
C'est vrai.
Moi, en fait, j'ai vraiment adoré me plonger dans ce livre parce que donc c'est des nouvelles. C'est la première fois qu'on lit des nouvelles de Donde Lillo, d'ailleurs. C'est des nouvelles qui ont été écrites quand même pendant plus de 30 ans. Hein, donc, on a quand même un petit peu... Moi, j'avais quand même un petit peu l'impression de pénétrer le laboratoire d'écriture de Donde Lillo. C'est quand même des nouvelles qui l'ont accompagné tout le long de l'écriture de ses romans qu'on connaît assez bien. Et oui, de pénétrer un petit peu l'antichambre de toutes ses obsessions, de tout ce qui anime en fait sa littérature, alors que ce soit par exemple la menace du terrorisme, je sais pas, la hantise de la chute, c'est des choses qu'on retrouve dans Cosmopolis, dans son très très beau livre aussi sur le 11 septembre qui s'appelle L'homme qui tombe. Cette agression aussi sexuelle de cette jeune fille dans L'ange Esmeralda, ben, c'est quelque chose qui se retrouve quasi... mot à mot dans Outre-Monde. Donc c'est vrai que c'est quand même...
Il y a des personnages aussi qui reviennent dans ces romans, comme la sœur Edgar.
Oui, voilà, un peu récurrent. Et ça, je trouve que c'est assez fascinant. Alors on a peut-être cette vision d'Européen de dire que les nouvelles ne sont que finalement que le laboratoire des romans, mais c'est vrai qu'il y a c'est quand même cette culture de la nouvelle aux États-Unis. Et je crois que ce sont vraiment des choses très, très consistantes qui ont été quand même publiées dans les plus prestigieuses des revues, je sais pas, Harper's Bazaar, New Yorker, Granta. Et je trouve que ce qui est assez fascinant, enfin moi qui me fascine vraiment dans l'écriture de Delillo, c'est ce fossé qui met toujours entre les êtres, leur vie intérieure et le monde, quoi. Comme dans par exemple tous ces dialogues où ils ont l'impression de s'écouter parler eux-mêmes, enfin d'être à côté d'eux-mêmes. Je trouve que c'est quelque chose qui reconduit très très bien dans son écriture.
Entre les nouvelles du début qui ont 30 ans et celles de la fin qui
oui,
ont 2011.
Oui, c'est quand même impressionnant, quoi. Ouais. Effectivement.
C'est vrai qu'après trois nouvelles, on fait déjà des liens entre les nouvelles, alors qu'à mon avis, il n'a pas cherché à faire des liens, puisqu'il n'a pas écrit ça en se disant « je vais faire un recueil avec mes machins ».
Oui, ça prouve qu'il a quand même un univers très solide, quoi, au niveau de ce malaise qui s'est si bien dispersé, je trouve, dans ses nouvelles. Et je trouve que oui, cette espèce de part de mystère, d'irréalité que les personnages peuvent ressentir, il le reconduit très bien dans son écriture avec... Je trouve une fulgurance poétique quand même, il y a des passages... Alors il faut peut-être un petit peu se décaler du sens, quoi, hein, se lâcher prise du sens pour se laisser à l'impulsion, en fait, à cette espèce d'abstraction, mais très soyeuse, très douce de son écriture. Et oui, quelque chose
c'est de... C'est très écrite, hein, parce que tu suggérais que c'était un petit peu l'écriture automatique en mode brut, mais c'est
en
très travaillé.
En matière de sens.
Okay. Parce que sinon, au niveau du style, il y a un travail énorme pour justement insinuer un petit peu les germes de cette intranquillité, puisqu'on le compare souvent à l'écrivain de l'intranquillité. Et ceux qui ne l'aiment pas, souvent, c'est pour ces mêmes raisons. Mm-hmm. Et il arrive très bien, comme tu dis, à se décaler, à créer une espèce d'univers parallèle où les personnages voient autre chose que ce qu'on peut voir dans la réalité, que ce soit dans L'Ange Esmeralda, où ça se manifeste physiquement, mais dans les autres nouvelles, c'est pareil. Toujours cette impression ça, d'être sur le fil de l'existence et d'avoir une espèce de... Je trouve qu'il y en a une qui est magnifique, c'est la dernière, je pense, avec ce personnage qui se retrouve...
Dans les cinémas.
Dans les cinémas. Ouais. Il y a un côté Cazavette, je trouve, dans cette nouvelle-là. Cette errance du personnage qui ne sait pas pourquoi il est, ça ne va pas, quoi. Il est dans un truc, il ne comprend pas ce qui lui arrive, et il essaie de trouver une espèce de...
Oui, pour moi, c'est aussi c'est une des deux plus belles. Hein. Je crois que la première, c'est Création, qui est aussi magnifique. Mmh. Et je pense que dans ces deux nouvelles-là, donc dans la nouvelle dont tu parles, où ce mec va passer ses journées au cinéma, il s'enferme dans les salles obscures, et puis il a toujours l'impression que c'est déjà le soir, quoi. Mmh. Il y a toujours cette question du temps, en fait, qui obsède Donde Lillo. Et dans la première, c'est cet homme qui, effectivement, rate son avion, enfin, doit attendre, est sur liste d'attente et donc entame une liaison avec une femme. Et c'est toujours cette question, qu'est-ce que le temps finalement, comment est-ce qu'on le ressent? Est-ce que c'est une construction humaine? Est-ce que c'est quelque chose qui nous est imposé? Est-ce que c'est un invariant? Ça, c'est vraiment... Je trouve qu'il y a une qualité aussi de mélancolie dans son écriture qui est absolument magnifique, quoi.
Mais dans la première nouvelle, en fait, Création, il y a cette phrase justement du gars qui dit à un moment « j'aime flotter ». J'ai l'impression que c'est un peu la clé du bouquin, quoi.
Tout à fait.
Ils sont tous dans un flottement des vies entre parenthèses.
C'est un très, très beau passage, je trouve, justement. Et qui a du sens.
Il y a aussi quelque chose par rapport entre l'homme et ce qu'il dépasse un peu aussi. Il y a ça dans la nouvelle, notamment sur le tremblement de terre aussi. Ouais. Aussi au départ, par rapport aux événements qui dépassent un petit peu ce qui peut avoir prise dessus. Et finalement, il y a aussi ça un
qui
peu comme...
Qui préfigure quand même fort le 11 septembre aussi.
Il y a un peu ça comme fil rouge aussi dans le livre.
Moi, j'ai envie de lire un petit morceau de dialogue. Okay. Comme ça, on se plonge directement dans cette poésie mélancolique.
Tu vas te moquer, là.
Miriam a prévu de nous lire 18 pages. Ça devrait durer une heure et demie.
Deux gamins qui sont donc obsédés par un type qui croit en bref.
Non, mais tu commences mal.
Qui invente la vie d'un gars qui croise en
C'est l'enjeu de compléter l'existence.
Tu as vu ces chaussures ? Point d'interrogation. Ce n'étaient pas des bottes. C'étaient des chaussures qui montent à la cheville. Des galoches. Ancien monde. Pas de gants. Veste au-dessus des genoux. Peut-être pas à lui. Héritage ou récupération ? Imagine le chapeau qu'il aurait porté s'il avait porté un chapeau, dis-je. Il ne porte pas de chapeau. Mais s'il portait un chapeau, quel genre de chapeau ? Il porte une capuche. Mais quel genre de chapeau s'il portait un chapeau ? Il porte une capuche, dit Todd. Moi, ça...
c'est complètement contexte, mais je pense que c'est quand même intéressant ce qu'il joue dans...
C'est pas de la mauvaise foi, c'est pas en contexte. Tout est comme
le reste repose sur quand même une narration construite. Ici, c'est la petite part d'absurde beckettienne qu'il peut y avoir voilà. Chez Don DeLillo. Mais c'est ce qui permet ce petit décalage de la réalité, tout en restant ancré dans la réalité.
Par rapport à leur environnement universitaire qui est quand même assez oppressant et comment ils en sortent. Moi, je trouve que, oui, cette part de flottement dont on parlait, dont Nicolas parlait, je trouve que c'est magnifique dans les relations hommes-femmes, par exemple, qui sont ces relations un peu fulgurantes, comme ça, avec beaucoup de non-dits, beaucoup de dialogues cryptés, de frôlements, et je trouve qu'il y a quelque chose d'infiniment sensuel là-dedans, enfin, dans cette première nouvelle et dans cette dernière, sans doute, c'est assez magnifique.
Tout en réussissant à inscrire ça dans un contexte parfois politique, assez critique, que ce soit par rapport aux médias, au pouvoir de l'image et tout, il arrive à ou l'économie, puisqu'il y a une nouvelle en particulier avec ce type qui est enfermé, enfin qui est prisonnier, mais des prisonniers en col blanc, puisque ce sont tous des banquiers qui ont fraudé, etc. Et il y a une réflexion sur l'économie mondiale à travers un truc complètement loufoque d'un bulletin d'information qui est mené par deux filles qui sont les filles du bonhomme. Enfin, on est dans la quatrième dimension, mais en même temps, ça balance sévère sur le...
C'est d'excellents pitch de série, par exemple, d'excellents pilotes de série. Mais moi, ça m'a gêné qu'à un moment, il ne se passe rien.
Il y a un côté pilote, c'est-à-dire qu'effectivement, quand on prend des nouvelles comme des nouvelles de Bukowski, par exemple, des choses comme ça, qui sont des nouvelles qui sont finalement aussi courtes en termes de dimension, mais qui ont un début, un milieu, un climax, une fin, quelque part, mais qui sont simplement des histoires racontées de manière plus courte. Ici, effectivement, on a l'impression parfois qu'ils plantent des décors, et justement, dans cette écriture brillante qu'il peut avoir, donc vraiment, il a un style hallucinant, maîtrisé, complètement maîtrisé, et qui, dans certains romans, justement, on a l'impression parfois dans des romans qui sont plus grands en tout cas, qu'on doit passer par là quelque part pour finalement réussir à s'accrocher petit à petit, on s'accroche finalement et on rentre dans le fil. Ici, on s'accroche et ça s'arrête en fait quelque part.
Je suis d'accord avec toi, tu as réussi à mettre en mots ce que je n'arrivais pas à dire.
Mais je trouve en fait, que vous reprochez au livre, c'est ce que vous aimiez bien dans la série en fait.
Mais je faisais le parallèle.
C'est ce côté, ça raconte rien et tout ça.
Mais on est content d'y être.
Ouais, d'accord. Bon, après, ça varie sur la forme, mais je veux dire, c'est un peu le sujet des nouvelles, finalement. C'est ce côté un peu du temps dilaté. Ouais,
tout à fait. Avec cette petite nuance pour moi ici, et c'est peut-être le petit bémol que j'aurais, le fait d'avoir été puisé des nouvelles un peu dans toutes les époques, il manque parfois sur le contenu, pas sur la forme, parce que là, on l'a bien dit, il y a une cohérence. C'est peut-être ce fil rouge, cette urgence qu'on a dans un recueil de nouvelles qui a été écrit sur une période plus ramassée. Que ce soit chez Tom Jones, par exemple, des auteurs comme ça, où même s'il n'y a pas de lien entre les nouvelles, il y a un lien invisible, souterrain, qui fait que l'ensemble crée une espèce d'urgence que j'ai moins ressenti ici, et c'est le côté plus laboratoire.
Peut-être qu'il faut peut-être laisser un peu de temps entre la lecture. C'est vrai que ce n'est pas un recueil de nouvelles dans lequel il faut se plonger en un ou deux soirs. Je crois qu'il faut laisser du temps. Pour moi, ce qui fait vraiment le lien, c'est son écriture, quoi. C'est cette part de mystère, cette part secrète de son écriture. Qui reste quelque chose d'irrésolu, en fait. Et moi, je pense que c'est quelque chose qui me restera précisément pour ça, quoi, parce qu'il n'y a pas quelque chose qui commence et qui s'arrête. Quoi.
Mais il y a aussi les endroits où ça se passe. Moi, je trouve qu'ils font le lien. Donc, une prison, une salle de cinéma, l'espace, c'est tout des... Je sais pas, des endroits où la vie est un peu entre parenthèses. Quoi,
oui, et qu'on retrouve finalement dans ces romans aussi, parce que Cosmopolis et tout ça, c'est quand même des romans très déstructurés dans une structure où il y a plein de pistes qui s'ouvrent, mais il ne va pas jusqu'au bout, il y a des inconnus, enfin, c'est une équation un peu bizarre, et je pense que ça fait partie de son univers, quoi. C'est un peu la clé de son univers.
Bon, ben on va donner une petite cotation, moi je lui mets, allez, 6. Vraiment, parce que j'ai envie de vous faire plaisir. Laurent.
Ben, je vais mettre 7. Je trouve que c'est une belle introduction dans l'univers de Don DeLillo, si quelqu'un veut découvrir.
Oui, il y a un côté un peu inégal, mais moi je mettrais 7 aussi.
Ouais, 7. 8.
6.
Merci. Ouais. Et donc L'Ange Esmeralda, le recueil de nouvelles de Don DeLillo, qui est publié chez Actes Sud. On va faire un rapide tour de table de nos coups de cœur pour clore cette émission. Moi, je vais vous toucher un mot de Broken, un petit film anglais de Rufus Norris. C'est un type qui vient du théâtre avec Tim Roth et Cillian Murphy. On voit en scène d'ouverture une gamine sans histoire qui voit son voisin un peu attardé mental se faire tabasser par un autre voisin. Ça, c'est le point de départ d'une autopsie très méticuleuse, de tous les secrets, de toutes les tragédies d'un quartier et globalement des vicissitudes du monde moderne. Ça va crescendo dans le drame et c'est paradoxalement aussi assez léger. Je trouve que c'est monté un peu comme une comédie pop, indé. Je ne sais pas si quelqu'un parmi vous l'a vu, ce film. Je pense qu'il va falloir s'y mettre parce qu'il n'est plus projeté que dans une seule salle à Bruxelles. C'est le Vendôme. C'est très étrange, très fascinant, très bien joué. Et ça s'appelle Broken, donc c'est sorti le 30 janvier, mais ça disparaît progressivement des salles.
C'est comme tous les films. Hein.
C'est disponible sur tous les bons internets.
Il ne faut pas dire ça. Ce n'est pas là que je l'ai regardé.
Moi, c'est une BD, vraiment un coup de cœur, ça s'appelle Mon ami Dahmer, Derf Bagderf, qui est un auteur américain, c'est son pseudo. Et Mon ami Dahmer, en fait, raconte l'existence et la jeunesse d'un tueur en série qui a réellement existé, Jeffrey Dahmer, qui est auteur de 17 meurtres, qui a été arrêté en 1991 et assassiné dans...
Que tu as l'air de beaucoup aimer.
Non, mais j'y viens. Et tu es assassiné dans sa cellule par sans doute un co-détenu. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'auteur ici a passé ses années de collège sur les bancs de la même école et la même classe que Jeffrey Dahmer. Et donc, on raconte toute l'histoire, raconte sa vie avant le premier meurtre et comment ce personnage avait déjà des comportements assez bizarres, mais surtout au-delà des victimes qu'il lui a pu commettre par la suite, comment lui est une victime finalement de ses parents qui sont complètement à la ramasse, qui sont absents, d'un système qui n'a pas repéré les problèmes que ce jeune type rencontrait et qui s'est tourné vers l'alcool pour essayer de compenser des pulsions qui auraient pu être encore soignées. Et même lui-même, lui-même se sent parfois responsable et c'est un projet qu'il a porté pendant 20 ans et il raconte ça dans un noir et blanc fantastique et franchement c'est une œuvre qui marque quoi. Il y a quelques éléments biographiques et des documents avec, je vous le conseille chaudement.
Il n'est pas impossible qu'en plus de nous le conseiller, tu nous l'imposes pour le prochain numéro de cette émission.
J'ai tellement été marqué que je crois que le prochain on pourra en parler pour discuter, tout le monde ne sera pas d'accord mais c'est...
Chouette pseudo en tout cas.
c'est vendeur en tout cas.
Derf Bagderf. Ah, oui. Okay. C'est chez ça et là.
Nico, toi, t'es venu avec un film, je pense.
Avec un DVD en fait, qui est un film qui s'appelle Kill List. C'est un film anglais qui est sorti en 2011, mais qui est sorti à la fois dans une ou deux salles en Belgique, mais surtout en DVD au tout début 2013. C'est un film qui a été réalisé par Ben Wheatley, qui est un peu le nouveau prodige du cinéma anglais, en tout cas selon moi, mais je ne suis pas le seul à le penser. C'est un film, je ne révèle rien sur l'intrigue, parce que c'est un peu des films à chute, comme ça. Mais ça commence comme du cinéma social anglais, ça vire thriller, et les 20 dernières minutes, c'est quasiment du cinéma d'horreur. C'est une bombe de films de genre, et il faut retenir ce nom, Ben Wheatley, je crois que ce type va aller très loin.
C'est quoi le film, répète ?
Kill List.
Comment ? Voilà. Ça t'a plu ?
Non, je suis encore dans Derf Mars.
Je te le prêterai.
Okay.
Mais moi, je l'ai pris avec moi, un tout petit roman publié chez Alia, Johan Anton, donc Liège, oui. C'est vrai que le titre m'a un petit peu surpris. C'est une auteure belge, Liège, oui.
Ça, c'est de la redoute.
C'est une sorte de mantra en fait, que cette narratrice essaye de s'imposer, puisqu'en fait elle est née à Liège, elle est partie vivre à Paris et vivre sa vie. Et voilà, le livre c'est vraiment sur ses allers-retours en train, quand elle vient revoir ses proches qui habitent toujours Liège, et qu'est-ce que c'est en fait de revenir dans sa ville natale quand on n'a plus d'attache, quand on la trouve un petit peu déprimante, un petit peu grise, et tout ce qui s'ensuit, pourquoi on est parti, comment revenir, comment être de nouveau cette fille de Liège, quoi. Et il y a quelque chose d'assez drôle parfois aussi dans les relations par exemple qu'elle peut avoir avec sa mère, quelque chose d'assez tranchant aussi sur cette recherche d'identité, quoi, comment on habite les lieux dans lesquels on a vécu. Et voilà, c'est assez surprenant, assez décharné finalement, mais je trouve qu'il y a quand même pas mal de choses à puiser dans ce petit livre. Donc Liège, oui, aux éditions Alia.
Liège est donc une ville romanesque.
Tout à fait.
Donc, c'est à toi.
La prochaine fois qu'on m'impose un livre, j'aimerais qu'il fasse 62 pages aussi, si possible. Mon coup de cœur, ah oui, c'est The Neighbors. Est-ce que tu connais
la série avec Kylie Minogue? Et Jason Donovan.
Oui, mais c'est juste, c'est pas tout. Oui, absolument. Ça existe.
Pas du tout. Donc, ça s'appelle Les Voisins dans notre française langue maternelle. Donc, c'est une série ABC. Ah,
c'est une série. Là.
C'est une série ABC, oui, qui se passe en fait aux États-Unis, où tu as globalement, il y a 10 ans, une soucoupe volante pleine de Martiens qui débarquent sur Terre et qui décident, puisqu'ils sont là, qu'ils n'arrivent plus à rentrer, d'acheter tout un pâté de maison dans un suburbs du style Weeds, par exemple. Mm-hmm. Mais ils achètent tout le pâté de maison, il n'y a plus personne qui vit avec eux. Sauf 10 ans plus tard, tu as une des familles qui décide quand même de retourner parce qu'ils en ont vraiment marre d'être sur Terre. Et donc, ça libère une maison qui va être investi par des humains qui finalement n'ont aucune idée de ce qu'ils attendent.
Et ces Martiens ressemblent à des humains.
Absolument, ils ont pris la forme humaine, sauf qu'il y a quelques petites différences. Voilà. Et donc, la famille qui va venir habiter dans la maison en question va rapidement se rendre compte que cohabiter avec des Martiens qui ne sont pas vraiment des Martiens, mais qui sont Martiens, terme générique. Voilà. Et donc, c'est très, très drôle parce que, voilà, donc, dès le premier épisode, les uns savent que les autres sont des humains et les humains savent que les autres sont des Martiens. Donc, globalement, il n'y a pas de...
On ne met pas quiproquo,
on ne met pas 85 ans.
C'est pas la soupe aux choux, quoi.
Voilà, non, voilà, on ne met pas 85 ans à ça. Et c'est super drôle, c'est décalé. J'aime plus tellement utiliser le mot décalé parce que ça devient tarte à la crème, mais... C'est différent.
C'est avec des acteurs qu'on connaît, qu'on a vus ailleurs ou...
Non. Ah, voilà. ils ont certainement fait d'autres choses dans leur jeunesse, etc. J'aurais pu me renseigner, mais je ne les connaissais pas. Alors, il y a des choses super drôles, par exemple, que tous les enfants des Martiens sont tous nommés avec un nom de sportif américain célèbre. Donc, les enfants, les garçons, les filles, ils ont tous des noms différents dans la famille parce qu'ils considèrent que c'est leur tribu à la race humaine, etc., de faire des choses comme ça. Mais il y a plein de choses assez chouettes et assez drôles dans cette série que je vous conseille à tous.
Première saison en cours.
Première saison qui est en train de se terminer, je pense, maintenant. Voilà. Et qui est très bien.
Voilà. C'était le mot de la fin. On a fait un peu le tour de ce qu'on a fait en magasin aujourd'hui. Alors, si vous avez aimé cette émission, abonnez-vous sur iTunes. Et si vous n'avez pas aimé aussi, d'ailleurs, c'est important. Laissez-nous vos commentaires sur la page Facebook de Focus Store. J'en vois parmi vous qui n'ont pas encore cliqué sur j'aime. Et ça, c'est mal. Merci Laurent, merci Zaline, merci Nico, merci Guy.
Merci Myriam.
À bientôt. Et puis d'ici là, lisez-nous parce qu'on écrit surtout toutes les semaines avec le Focus Juif dans le package Juif L'Express. Au revoir.
Au revoir.
Ciao.